premier temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des mondialisations. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Saint-Garavelou pour son dernier ouvrage « Tianjin Cosmopolis ». Et dans le cadre de cette histoire des mondialisations, demain, dans la Fabrique, Anaïs Quien et Véronique Sawilov vous proposeront le documentaire Dancing Shoes, Sarah et Lila Petronio de Bombay à Malakoff via Brooklyn. Après-demain, nous nous souviendrons que Cahors se voulut, après la Seconde Guerre mondiale, ville-monde. Et jeudi, nous débattrons de la mondialisation par le commerce. Quant à aujourd'hui, nous recevons dans quelques minutes l'historien Pierre Saint-Garavelou, auteur au seuil de Tianjin Cosmopolis, dans lequel il dresse le portrait d'une ville mondialisée de Chine au tournant des 19e et 20e siècle. Mais tout de suite, nous sommes lundi, vous le savez, et le lundi, nous avons un épisode de la Fabrique de la Guerre froide, un nouvel épisode aujourd'hui, signé Anaïs Quien et Françoise Camard.
Uважаемые гости, 27-й съезд КПСС.
Do you place and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no?
La fabrique de la guerre froide.
This picture tells it all. This flag was apparently taken from someone's office inside the United States Embassy. It was burned Tuesday evening outside the embassy's gates. To the Iranian demonstrators who set fire to it, this was a symbol of victory. 2 days earlier, several hundred young people, mainly students at Tehran University, had taken over the embassy. We are not occupiers, they said. We have thrown out the occupiers.
L'Union soviétique et les États-Unis restent circonspects face à la révolution islamique iranienne survenue en 1979. La prise en otage de 52 diplomates et civils américains dans l'ambassade des États-Unis à Téhéran pendant 444 jours va accélérer la prise de position des leaders des blocs de l'Est et de l'Ouest. Alors, que se passe-t-il ce 4 novembre 1979, Pierre Grosseur?
Alors, ça, c'est tout le problème de savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a eu des étudiants qui sont rentrés dans l'ambassade et qu'il y a eu une prise d'otage qui a duré 444 jours. Ça, en gros, on le sait. Le problème qui demeure, c'est de savoir est-ce qu'ils ont été télécommandés par le pouvoir, notamment pour radicaliser la révolution et éliminer les modérés, et ça on sait que dans la plupart des processus révolutionnaires, ça se passe de cette manière-là, ou bien est-ce que ça a été même préparé par ces étudiants, ou comme d'ailleurs le document le laisse penser, il y a une espèce de... ça leur a un peu monté à la tête, et petit à petit on s'est excité, et c'est comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire qu'on en est arrivé à prendre des Américains en otage. Alors, 444 jours, c'est très très long. C'est très très long pour les otages, évidemment, c'est très très long aussi pour ceux qui essayent de négocier. Il se passe énormément de choses dans le contexte international à ce moment-là, et notamment cette radicalisation de la révolution. Il semble que la CIA était un peu perdue dans l'année 1979, et donc, en fait, on essayait surtout de collecter du renseignement, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passait, de comprendre quelles étaient les forces dans cette révolution, de savoir qui était l'ayatollah Khomeini, ce que c'était que le chiisme, parce que l'air de rien, on n'en parlait pas beaucoup auparavant du chiisme. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que le chiisme, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Et de toute façon, il faut bien voir que l'ayatollah Khomeini est aussi un tiers-mondiste. C'est-à-dire quelqu'un qui disait ni l'Est ni l'Ouest, qui était assez hostile à l'impérialisme américain. Alors bien entendu, il y a beaucoup de négociations, on cherche des intermédiaires, les Algériens ont joué un rôle important. À un moment, Jimmy Carter demande au pape en disant « bah voilà, de religieux à religieux, ça marchera peut-être bien ». Bon, le pape n'est pas trop allé le faire parce qu'évidemment, je pense qu'il risquait pas mal et je pense pas que c'était une très très bonne option. Donc l'idée de faire une opération militaire, en plus il faut bien voir que c'est encore après le Vietnam, donc est-ce qu'on va s'enliser au Moyen-Orient? Et on sait très bien qu'il y a eu une petite opération assez mal organisée et qui a été assez humiliante puisque en gros les hélicoptères américains ont été plantés dans le désert, ce qui évidemment a rallongé le temps des discussions, c'est évident. Entre-temps quand même, il faut voir, il y a deux moments importants. Le premier, c'est qu'il y a l'Irak qui attaque l'Iran. C'est en septembre 1980. Et puis, le deuxième interrogation, c'est qu'il y a les élections présidentielles américaines. Et souvent, il y a des coups tordus dans les élections présidentielles américaines. Là, on suspecte quand même assez fortement l'équipe Reagan d'avoir fait comprendre aux Iraniens que ça serait peut-être mieux d'attendre, en tout cas, pas donner le cadeau à Jimmy Carter d'une libération en faisant miroiter que l'Iran obtiendrait plus si la libération se faisait juste après l'élection. Et la libération a eu lieu juste après l'élection.
Et quelle est la relation du bloc soviétique, de l'Union soviétique en particulier, avec cette révolution, mais révolution religieuse, Pierre Grosseur?
Alors, il faut voir que traditionnellement, l'Iran était le grand allié des États-Unis dans la région. Hein, celui qui avait aidé Israël, fournissait le pétrole à Israël, etc. Ce qu'on oublie de temps en temps, et qui avait des très très bonnes relations entre ces deux pays. Ça n'a pas empêché le Shah, pour avoir un tout petit peu de jeu, d'avoir normalisé les relations avec l'Union soviétique en 1962. Il faut bien avoir en tête que là aussi pour les Iraniens, historiquement, la Russie, c'est une puissance impérialiste au nord, qui a d'ailleurs mangé une partie du territoire de l'Empire perse, notamment l'Azerbaïdjan, puisque vous avez un Azerbaïdjan des deux côtés hein, de la frontière. Donc, il n'y a pas de sympathie, j'allais dire, très naturelle à l'égard de la Russie. Et puis, bien sûr, pour l'Ayatollah Khomeini, c'est un régime athée. Donc, l'idée, c'est que, évidemment, si on peut utiliser un peu l'Union soviétique, on utilisera, mais on le fera très, très peu. Il faut bien voir que pendant la crise de la révolution iranienne, oui, à Washington, on s'est inquiété que le désordre général profite aux communistes iraniens. Mais en fait, on voit très, très vite que le régime roméniste n'a pas du tout envie d'être allié avec les communistes, n'aime pas les communistes en tant que tels, et se méfie presque autant des soviétiques qu'il se méfie des américains. On considère souvent que 1979, pour aller vite, est un tournant absolument majeur dans l'histoire du Moyen-Orient, et évidemment en conséquence dans l'histoire du monde, puisqu'il y a la paix entre l'Égypte et Israël, d'une part, ce qui est évidemment tout à fait nouveau, il n'y a plus de grande guerre classique contre Israël depuis ce temps-là. Deuxième grand tournant, c'est cette révolution en Iran, et évidemment les conséquences qui en sont venues, c'est-à-dire entre autres la guerre entre l'Irak et l'Iran, puisque l'Irak a attaqué l'Iran en estimant qu'il y avait finalement une fenêtre d'opportunité. Et puis en décembre 1979, c'est l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Et évidemment, il faut bien comprendre que pour les décideurs de l'époque, tout ça est intimement lié.
Et comme d'habitude, ce nouvel épisode de la Fabrique de la Guerre Froide, vous pouvez le télécharger séparément des autres émissions, et en particulier de l'émission de ce jour, et vous garderez ainsi avec vous l'ensemble de cette série et de ce feuilleton sur l'histoire de la Guerre Froide. Bonjour Anaïs Kien.
Bonjour.
Et donc nous recevons Pierre Singer-Avelou pour son livre Tianjin Cosmopolis, une autre histoire de la mondialisation, dans une semaine consacrée à l'histoire des mondialisations, à une autre histoire de la mondialisation. Bonjour à vous Pierre Singer-Avelou.
Bonjour.
Vous nous parlez d'une ville, d'une certaine façon, on se dit, mais tiens, existe-t-elle tellement elle est peu connue, vue de nous aujourd'hui, et vous nous montrez combien cette ville est importante. C'est la ville de Tianjin. Donc en Chine, c'est comme ça qu'on prononce ?
Oui, Tianjin.
Et cette ville, curieusement, attire depuis quelques années de nombreuses historiennes, de nombreux historiens, un programme britannique, je crois, de l'université de Bristol, de Robert Bickers et de Nicolas Cooper, une thèse à l'école, à l'institut, sur l'institution des hautes études industrielles et commerciales d'une certaine Weishuan Tian, une autre thèse de Fleur Chabaye à Lyon, une autre thèse de Jialui Wang à Paris sur l'histoire technique. Et puis vous, donc avec ce livre qui paraît dans quelques jours donc aux éditions du Seuil, qui s'intitule Tianjin Cosmopolis, une autre histoire de la mondialisation. Pourquoi cet intérêt brusque de tous les historiens et toutes les historiennes pour cette ville chinoise qui est assez peu connue tout de même aujourd'hui ?
Alors, je crois qu'il y a un effet de rattrapage, en fait, puisque les historiens, les sinologues, à la fois chinois et étrangers, se sont principalement intéressés d'abord au monde rural jusqu'aux années 1980. Ils étaient beaucoup inspirés par le paradigme de Max Weber dans son ouvrage sur les villes, qui expliquait qu'au fond, il n'existait pas de véritable ville en Chine, parce que les villes, selon lui, chinoises, étaient simplement des centres administratifs et militaires, et non pas des communautés autonomes, marchandes, avec une véritable société civile. Et donc, ce n'est que tardivement que les sinologues, les historiens se sont intéressés aux villes à partir des années 1990, au fond, et ils se sont focalisés exclusivement, ou presque exclusivement, sur Shanghai, en adoptant au fond un point de vue téléologique, c'est-à-dire que certes Shanghai a joué un rôle déterminant dans l'entre-deux-guerres, à tout point de vue, mais il faut dire que en 1900, au tournant du siècle, eh bien c'est Tianjin qui est la ville la plus importante de Chine, avec la capitale impériale Pékin.
Anaïs Kim.
Alors cette démarche de choisir de faire la monographie d'une ville pour élaborer une histoire mondiale, qui est quand même un champ encore relativement neuf, en tout cas éditorialement, vous la complétez par une hyper spécificité de cette ville de Tianjin, ville qui a été totalement oubliée, alors que dans votre livre on constate que les sources ne manquent pas. Pour évoquer cette histoire, il y a de nombreux témoignages. D'ailleurs, ce livre, de manière générale, qui est très agréable à lire et malgré tout très très dense. Et cette monographie de ville, elle est intéressante parce qu'elle se concentre sur un tout petit moment, c'est-à-dire deux années expérimentales de très forte intensité coloniale. Vous allez nous expliquer pourquoi, Pierre Saint-Garavelou, et qui montre finalement un moment inédit et extraordinaire dans l'histoire de la colonisation et des empires occidentaux, mais pas seulement d'ailleurs, parce que pendant ces deux années à Tianjin, on va rencontrer tous les empires coloniaux qui gouvernent le monde en ce début de XXe siècle.
Oui, en effet, c'est un moment extraordinaire, raconté d'une certaine façon, relaté de façon ordinaire, quasi quotidienne, pendant ces deux années entre 1900 et 1902. Et il y avait pour moi la volonté, au fond, d'incarner cette histoire de la mondialisation qui, la plupart du temps, une espèce de macro-histoire éthérée, hors sol, désincarnée. Et il y avait là une occasion extraordinaire, espèce de concentré d'humanité. En 1900-1902, la plupart des grandes puissances de la planète, la Grande-Bretagne, la France, les nouvelles grandes puissances que sont les États-Unis, le Japon, la Russie, l'Allemagne, et aussi de petits États qui ont des ambitions coloniales comme l'Italie, l'Autriche-Hongrie, eh bien se concentre sur cette petite portion de territoire à la suite de la révolte des Boxeurs. On pourra y revenir peut-être tout à l'heure. Et donc c'était au fond l'occasion d'appréhender cette histoire de la mondialisation par le bas, très concrètement, en suivant tous ces acteurs dans leur diversité, dans leur complexité, en sortant de ce méta-récit de la mondialisation qui, au fond, présente une mondialisation qui ne s'explique que par elle-même, qui est son propre moteur.
Et désincarné, largement insipide.
C'est cela. Donc là, en l'occurrence, c'est tout le contraire, puisque, eh bien, à la suite de cette rébellion qui commence en 1898, hein, où ces artisans, ces dockers, ces comédiens aussi de l'opéra de Pékin, donc des troupes qui déambulent dans le nord-est de la Chine, eh bien, se rebellent contre la présence étrangère, contre les conversions de certains Chinois au christianisme, qui prennent les armes, qui manient les arts martiaux, d'où leur surnom de boxeurs. Ces boxeurs, c'était assez, disons, méconnu. Eh bien, ces boxeurs transforment cette ville de Tianjin, qui possède alors quatre concessions étrangères, en véritable capitale insurrectionnelle, en capitale révolutionnaire.
Oui, d'ailleurs, ils envoient des tracts au tout début de l'année 1900, dans lesquels ils disent « Nous, boxeurs, sommes venus à Tianjin pour tuer les diables étrangers et protéger la dynastie Mandchou. L'impératrice douairière et le général Ronglu sont de notre côté. Les soldats de Yulu et de Yuer sont nos hommes. Quand nous aurons achevé les tueries à Tianjin, nous irons ensuite à Pékin. Tous les fonctionnaires petits et puissants, nous y accueillerons avec bienveillance. Que celui qui a peur s'échappe vite pour sauver sa vie. » Donc c'est une menace, effectivement, de ces boxeurs, donc dont vous nous avez décrit qu'ils étaient une sorte de coalition hétéroclite de personnes qui ne veulent plus sur le territoire chinois de ces puissances étrangères, qui, il faut peut-être le rappeler pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, sont arrivés au milieu du 19e siècle, à l'occasion de la première, puis de la seconde guerre de l'opium, et puis d'autres expéditions militaires qui se sont multipliées jusqu'à la fin du siècle.
Oui, alors ces boxeurs transforment en effet Tianjin en capitale non seulement révolutionnaire, mais capitale magique, hein, puisqu'ils sont censés possédait un certain nombre de dons extraordinaires, surnaturels,
dont celui d'éviter les balles et d'éviter les lames.
En effet, les femmes boxeurs, c'est ce qu'on appelle les lanternes rouges, ont la capacité de voler, et donc la nuit, elles s'envolent dans le ciel pour notamment incendier les maisons de leurs adversaires japonais à Tokyo et à Kyoto avant de revenir très rapidement à Tianjin. Donc en fait, la particularité, si vous voulez, de Tianjin, pendant presque un mois, entre juin et mi-juillet 1900, eh bien, c'est que les boxeurs vont réaliser d'une certaine façon leur ambition politique très concrètement, puisque en fait, on a une image des boxeurs qui est un peu déformée par, au fond, l'imagerie héritée notamment du film de Nicolas Ray, Les 55 jours de Pékin. En fait, les boxeurs ont un véritable projet politique qu'ils vont réaliser en partie à Tianjin en instaurant par exemple l'égalité entre les hommes et les femmes, en répartissant équitablement les biens, la nourriture. Alors avec aussi l'instauration d'une forme d'abstinence dans le domaine sexuel, pas de consommation de tabac, pas de consommation d'opium, évidemment, avec tout ce que cela signifie par rapport à l'histoire politique et économique de la Chine au 19e siècle. Et en même temps, il y a un projet politique qui a été obéré au fond après 1900, qui est de remettre en question à la fois l'ordre social confucéen, puisque les boxeurs à Tianjin sont dirigés par les femmes, et notamment la sainte mère du Lotus Jaune, Lin Eier, qui prend la tête véritablement de la ville et de Tianjin, et qui prend le dessus sur les hauts fonctionnaires, les mandarins impériaux de l'Empire Qing. Et là, il y a véritablement, si vous voulez, un objectif politique qui est rempli par les boxeurs pendant ce mois de juin et mi-juillet 1900. Ils prennent le dessus sur les mandarins, qu'ils vont par exemple dégrader. Ils vont arracher les carrés mandarins sur les robes de ces hauts fonctionnaires. Ils vont les obliger à s'agenouiller devant eux. Ils vont prendre véritablement le pouvoir. Et donc les deux spécificités, si vous voulez, de cette présence boxeur à Tianjin, c'est cette omniprésence des femmes, des jeunes femmes, des adolescentes, et puis des jeunes enfants, des jeunes garçons entre 12 et 16 ans, qui eux aussi jouent un rôle déterminant.
Anaïs Quin.
Oui, Pierre Saint-Garavello, au cours de cet été, on a bien compris ce théâtre insurrectionnel. Peut-être pour expliquer pourquoi Tianjin concentre tous ses intérêts, il faut revenir aussi sur la notion même de concession qu'on utilise très souvent rapidement. La concession, pour l'Empire chinois, c'est aussi une manière de restreindre l'accès étranger à l'Empire chinois lui-même.
La concession à l'origine, eh bien, au fond, est héritière de ce qu'on appelait le système de canton. À partir du milieu du XVIIIe siècle, il s'agit de cantonner, de mettre à distance les influences extérieures, et notamment les marchands étrangers de la Compagnie des Indes orientales. Et ce système de canton va ensuite se transformer avec l'apparition des concessions avec la première guerre de l'opium dans les années 1840, puis se démultiplier à partir des années 1860 avec la seconde guerre de l'opium. Il s'agit pour l'Empire Qing, là encore, eh bien, de délimiter, de circonscrire cette influence étrangère. Et ça se traduit parfaitement dans la géographie de la région de la ville de Tianjin, puisque au fond, eh bien, les concessions étrangères sont développées à plus de 3 kilomètres de la cité autochtone chinoise.
Donc ce sont des enclaves étrangères.
Ce sont des enclaves étrangères. Il s'agit à l'origine de territoires loués par les puissances étrangères à l'Empire chinois. Donc ça veut dire que l'Empire chinois, jusqu'à la fin de la période, conserve formellement la souveraineté sur ce territoire qui est loué par les étrangers. En réalité, dans les faits, eh bien, les puissances étrangères vont les transformer en petites colonies où ils vont instaurer leur propre police, leur propre justice, prélever l'impôt, etc. C'est-à-dire exercer des droits régaliens sur un territoire qui formellement appartient à la Chine.
Oui, alors Pierre Saint-Garavello, entre la première guerre de l'opium dans les années 1840 et 1899, vous nous expliquez qu'il y a 45 villes et ports qui sont ouverts donc à ce commerce étranger, à ces concessions étrangères. Pourquoi Tianjin est-elle une ville plus importante que toutes les autres à votre avis, donc, et pourquoi vous y êtes arrêté comme beaucoup d'autres historiens depuis quelques années ?
Alors Tianjin, au fond, occupe une place très particulière à partir des années 1860. puisqu'au fond, c'est d'abord, et ça c'est le cas depuis le 15e siècle, c'est la grande cité militaire fortifiée qui protège l'accès à la capitale impériale de Pékin. Hein, depuis la mer, on doit passer par Tianjin pour se rendre à Pékin. D'autre part, c'est le principal centre économique du nord de la Chine, la réserve de denrées par exemple et de matières premières pour la capitale encore une fois. Et d'autre part, à partir des années 1860-1870, eh bien Tianjin devient la capitale diplomatique de l'empire Qing, puisque les empereurs et l'impératrice douairière Cixi va favoriser les échanges diplomatiques au sein de cette ville de Tianjin, au fond pour sauver la face, d'une part pour ménager l'empereur en titre. Les négociations n'auront plus lieu à Pékin.
C'est là où on signe les traités, en fait, Tianjin.
Exactement. La majeure partie des traités, disons plus de la moitié des traités, des 23 traités pour être précis, qui sont signés dans la deuxième moitié du 19e siècle, sont signés, alors non, pas n'importe où. Ils ne sont pas signés à Tianjin, dans la cité autochtone. Ils sont signés, pour la plupart, dans les concessions étrangères, c'est-à-dire ces concessions, pour reprendre votre question, qui bénéficient de droits d'extraterritorialité. Et donc, officiellement, ils ne sont pas signés, si vous voulez, en Chine. Et plus précisément, c'est ça qui est intéressant, la plupart d'entre eux sont signés dans un hôtel, l'hôtel Astor, qui est le premier grand hôtel international fondé en Chine dans les années 1860, qui va accueillir dans ses différentes chambres et suites des consulats étrangers, comme le consulat des États-Unis, et puis dans lequel on va négocier librement, on va pouvoir signer des traités. Et puis dans cet hôtel Astor, il faut dire que toutes les infrastructures les plus modernes se retrouve en 1900.
Téléphone,
etc. Oui.
Oui, parce que cette ville est une ville extrêmement moderne au tout début du XXe siècle, Anaïs Kien.
Oui, peut-être pour en venir au cœur de votre objet, Pierre Singaravelou. Donc c'est à la suite de ce moment de forte insurrection au cours de l'été 1900 que les puissances impériales occidentales et japonaises présentes sur le territoire vont constater leur échec face à cette insurrection chinoise et se concerter finalement pour coproduire le moment que vous étudiez, ces deux années de 1900 à 1902 à Tianjin, cette expérience, vous parlez même de laboratoire, de micro-état colonial qui ne dit pas son nom, et c'est cette coproduction impériale finalement, ce moment où les empires, les grands empires du moment vont partager la gouvernance, donc créer une gouvernance internationale tout à fait inédite. D'ailleurs, vous le notez, 20 ans avant l'invention de la Société des Nations, donc l'ancêtre des Nations Unies. Et c'est cette coproduction, finalement, qui vous interroge et qui, quelque part, prend à contre-pied l'image qu'on a de l'impérialisme, c'est-à-dire imposer à une société préexistante les caractères nationaux de la métropole impériale qui prend pied sur ce territoire à coloniser.
Oui, en fait, l'histoire de l'impérialisme a été pendant longtemps, jusqu'à très récemment, relatée comme au fond l'histoire d'une compétition interimpériale, une compétition entre les grandes puissances, notamment au XIXe siècle, c'est-à-dire entre la France d'un côté, la Grande-Bretagne de l'autre, et puis les puissances émergentes qu'on a évoquées tout à l'heure, les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, le Japon. Alors ce qui est intéressant avec cette histoire de Tianjin, comme avec d'autres épisodes qui sont aujourd'hui de plus en plus étudiés par les historiens, c'est qu'on se rend compte que l'histoire de l'impérialisme est sans doute autant faite de coopération internationale ou interimpériale que de compétition. Alors on l'a remarqué par exemple dans l'histoire de l'expansion coloniale, on sait aujourd'hui que l'histoire de la colonisation française en Asie n'a pu exister que parce que les Français ont pu bénéficier du réseau de points d'appui, de ports par exemple britanniques pour pouvoir eh bien progresser jusque en Indochine. Dans le cas de Tianjin, ce qui est intéressant, c'est que à la suite de la victoire des puissances alliées, il faut rappeler que les alliés sont 8 grandes puissances, 8 puissances à se coaliser pour vaincre ces boxeurs qui ont pris la ville de Tianjin et qui menacent les concessions étrangères, donc en juin-juillet 1900. Les 8 puissances alliées, ce sont la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, le Japon, la Russie, l'Autriche-Hongrie, l'Italie, l'Allemagne.
ces huit puissances alliées, eh bien, cherchent chacune à obtenir le leadership sur cette coalition. Et c'est précisément parce que aucune d'entre elles ne peut l'obtenir qu'elles sont contraintes, eh bien, d'inventer cette nouvelle formule, vous l'avez dit, totalement inédite, du gouvernement international, de cette gouvernance mondiale. Et là, c'est une première dans cette histoire de la mondialisation. Pour la première fois, sans doute, nous observons une forme de mondialisation politique avec un gouvernement collégial de toutes ces grandes puissances qui est fondé seulement deux jours après la victoire décisive de Tianjin et qui va durer pendant deux ans.
Oui, alors il faut dire tout de même qu'on passe un peu vite sur une scène que vous décrivez parfaitement bien, qui est la scène effectivement de l'arrivée des boxeurs, de leur imposition dans la ville chinoise, des menaces qu'ils font peser sur les concessions étrangères, de la peur que l'on sent dans tous les textes que vous avez recueillis et rassemblés dans votre travail Tianjin Cosmopolis, une autre histoire de la mondialisation, Pierre Saint-Garavelou, de la peur des concessionnaires, de ces quelques centaines voire milliers au maximum de soldats, mais aussi de commerçants, mais aussi de personnels consulaires qui sont présents dans ces concessions de Tianjin. Et ensuite, effectivement, une fois qu'ils ont réussi à débloquer le siège qui leur était fait, eh bien, des massacres qui vont se passer dans cette ville chinoise de Tianjin une fois les boxers partis. Massacres qui sont terribles, que vous nous décrivez de façon très précise, et qui vont donner lieu ensuite à peut-être une sorte de stupéfaction de qu'est-ce qu'on fait maintenant pour pouvoir réinstaurer de l'ordre à la fois dans la concession et dans la ville chinoise voisine de Tianjin, en l'occurrence Pierre Saint-Garavelou.
Oui, alors vous avez raison. Ma première surprise lorsque j'ai étudié les sièges successifs qui se déroulent dans cette ville en quelques semaines, c'est-à-dire d'abord le siège des concessions par les boxeurs, puis le siège de cette ville chinoise tenue par les boxeurs, assiégée donc par les forces alliées étrangères. Ce qui m'a surpris, eh bien, c'est le fait que rien n'était joué. Et c'est l'incertitude de la situation, et ça rejoint au fond un travail que j'ai mené récemment avec Quentin Deluermeau sur l'histoire des possibles. C'est que, au fond, pour les acteurs, eh bien, c'est cette victoire qui est une surprise, cette victoire des alliés qui n'était pas prévue. Les acteurs eux-mêmes, les du côté chinois comme du côté occidental, eh bien, ils anticipent une défaite.
Oui, d'autant que, comme les boxeurs ont coupé toutes les liens de communication, en Europe, tout le monde pense que ces Européens qui sont dans cette concession assiégés par les boxeurs sont morts ou sont en train de mourir d'une certaine façon. Donc d'une certaine façon, personne en Europe ne pense qu'ils vont survivre à cette attaque des boxeurs qui sont très forts et très très organisés en l'occurrence.
Exactement, c'est le cas des Européens, des Occidentaux assiégés dans les légations à Pékin, dont on pense, dont on est même certain qu'ils ont été exterminés, hein, ce qui évidemment va exciter grandement les Européens à Tianjin, ce qui va expliquer en partie la violence paroxystique à laquelle ils vont se livrer ensuite après la prise de la ville en massacrant les femmes et les enfants chinois allègrement dans cette cité autochtone. Mais ce qu'il faut dire, si vous voulez, c'est qu'à Tianjin, l'événement est hyper médiatisé et la plupart du temps, à quelques exceptions près, eh bien pendant ce mois d'affrontement, le monde entier suit jour après jour les événements avec notamment des dizaines de reporters qui sont sur place. Il y a des scènes fameuses qui sont racontées par les journalistes qui sont tous rassemblés au rez-de-chaussée de la maison d'Edgar Hoover, qui est le futur président des États-Unis. C'est important à préciser parce que c'est le début de la légende de Hoover sur lequel il va
Herbert Hoover.
J'ai dit Edgar, ouais. Pardonnez-moi. Herbert Hoover, légende sur laquelle il va s'appuyer pour ensuite devenir président des États-Unis. Il accueille lui-même au rez-de-chaussée de sa maison une vingtaine de journalistes en permanence pendant le siège, hein, qui relaient dans toutes les agences étrangères les informations. Donc c'est un événement qui est très suivi, c'est un événement qui est global, et c'est un événement qui est oublié immédiatement quelques semaines après la bataille décisive, parce que dès lors, eh bien, toute l'attention est retenue par le siège délégation.
Anaïs Kien.
Oui, et l'installation de ce gouvernement militaire international qui, nous l'avons dit tout à l'heure, sera inédit. Ce qui est très intéressant aussi, je trouve, dans cet ouvrage, Pierre Saint-Garavelou, c'est que vous ne négligez jamais, finalement, le regard chinois et la diversité, en fait. Aussi bien du côté des empires coloniaux, des fonctionnaires, des intermédiaires, des commerçants, mais vous faites la même chose du côté des Chinois, à la fois du côté de ces boxeurs qui qui subissent une défaite, mais qui vont garder une emprise sur cette société chinoise, de ces brigands d'ailleurs aussi qui s'allient à l'occasion à ces boxeurs, de ces fonctionnaires chinois, de ces marchands chinois qui vont devenir intermédiaires et qui vont créer quand même pendant ces deux années de Tianjin entre 1900 et 1902, ces deux années de gouvernance partagée entre les empires coloniaux, une société tout à fait confuse au premier abord, toute faite finalement d'acculturation et de mouvements de va-et-vient entre les différents champs qui constituent une société, et cette société particulière, cette société que vous appelez globale.
Oui, en fait, cette histoire de Tianjin, elle brouille les pistes, elle brouille les frontières. Frontières entre, vous l'avez dit, entre Chinois et étrangers. On s'aperçoit très rapidement qu'au fond, dès la bataille qui oppose ces deux camps constitués, il y a beaucoup de Chinois du côté des étrangers, qui combattent même du côté des étrangers, avec des régiments chinois, le régiment de Wei Haiwei. Il y a beaucoup aussi, il y a un certain nombre d'experts étrangers, d'officiers étrangers qui combattent du côté de l'armée impériale chinoise, parce qu'il...
Elle a été dotée par les canons Krupp en particulier.
Exactement, et ces experts qui officiaient dans cette armée impériale, pour certains, continuent à défendre la ville autochtone de Tianjin contre leurs amis ou leurs collègues étrangers qui se situent dans le camp d'en face. Et puis on retrouve, si vous voulez, ce phénomène de brouillage tout au long de ces deux années, puisque au fond, après la victoire, j'ai observé un phénomène très étonnant. Je m'apercevais que des soldats disparaissaient au fur et à mesure de l'histoire de ce gouvernement international en situation de paix. Des soldats allemands, français, britanniques disparaissaient chaque semaine de leurs casernes. Et je me suis aperçu qu'en fait, ces soldats étaient des déserteurs qui, par dizaines, s'installaient dans les campagnes du Jiuli, la région environnante, s'installaient donc en portant robes, nattes à la Mandchoue, en officiant comme commerçants, ou alors s'engager dans l'armée impériale mandchoue.
Oui, vous parlez d'ailleurs du règne du faux, c'est-à-dire que les uniformes s'échangent, les papiers administratifs aussi falsifiés sont monnaie courante, la monnaie elle-même peut se trouver falsifiée. Finalement, on assiste à un brouillage des identités qui est quand même tout à fait à la fois saisissant, troublant, mais en même temps très, très intéressant pour comprendre ce moment de forte intensité qu'est Tianjin pendant ces deux années.
Alors exactement, ce règne du faux, c'est très intéressant parce que c'est un moyen, au fond, pour les populations locales de contrecarrer au fond cette domination étrangère. Le faux monnayage, vous l'avez dit, qui est très étonnant parce que au fond la quasi-totalité de la monnaie chinoise sur place est fausse, hein, d'où la difficulté pour ce gouvernement international étranger de l'interdire. Et donc les commerçants chinois somment le gouvernement international étranger de ne pas interdire cette fausse monnaie sous peine de détruire l'économie locale. Chinois de la région n'hésitent pas à endosser des costumes militaires étrangers, à se faire passer pour des agents du gouvernement, à faire imprimer de fausses cartes de visite de fonctionnaires du gouvernement international.
À se faire passer pour chrétiens parce que c'est peut-être plus pratique pour éviter des poursuites après justement les massacres qui ont été commis par les boxeurs dans la ville, dans les concessions.
Exactement, on observe ce phénomène, se faire passer pour chrétien ou se faire passer pour musulman, car les religions monothéistes sont réputées opposées au boxérisme. Donc, de ce point de vue, les populations autochtones développent toute une série de stratégies de contournement du pouvoir étranger, d'accommodement avec le pouvoir étranger, mais aussi de lutte contre ce pouvoir étranger. Vous l'avez dit, il y a ces brigands, parce que c'est une question de lexique, au fond, à la fin, cette fin de la guerre des boxeurs, qui est officiellement datée de la mi-août 1900. En fait, cette guerre des boxeurs se poursuit pendant de longs mois dans les campagnes de la région. Simplement, les boxeurs ne sont plus appelés boxeurs. Ils sont appelés brigands, ces brigands vont s'appliquer à couper les lignes de télégraphe, à effectuer des brèches dans les digues et le réseau hydrographique de la région, à utiliser toute une série de moyens, au fond, pour remettre en question cette domination étrangère.
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait se dire, il y a quelques concessions étrangères qui sont présentes à la fin du 19e siècle, on va s'arrêter là. Et en fait, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, à la faveur de cette victoire des Alliés, donc face aux boxeurs en 1900, eh bien, d'autres puissances étrangères viennent réclamer une sorte de dû et qu'il y a une négociation nécessaire entre ceux qui sont les plus anciens, les Britanniques, les Français, les Américains. Vous dites d'ailleurs les États-Uniens tout le temps dans le texte, ça m'a surpris parce que j'imagine qu'on ne disait pas les États-Uniens à ce moment-là, mais on le dit maintenant, les Américains. Et puis, vous avez également les Russes, évidemment, qui sont arrivés, qui ont participé à la victoire de ses alliés, puis ensuite l'Autriche-Hongrie, puis ensuite l'Italie, puis ensuite les Belges, et au bout du compte, combien ? 9 ou 10 nations ?
Alors, en tout, il y a officiellement 9 concessions étrangères à Tianjin. Alors, effectivement, en réalité, les États-Unis ne mettent pas en valeur leur propre concession, qui va être intégrée assez rapidement dans la concession britannique. Et puis, les Belges possèdent officiellement une concession, mais en réalité, ils ne mettront jamais en valeur ce territoire et préféreront, au fond, développer leurs entreprises multinationales dans la banque, dans le tramway, au fond, dans les autres concessions. Alors, ce que vous
mais
dites...
Mais même les États-Unis, vous dites, dans toute l'introduction de l'ouvrage, que finalement, les États-Unis ont une concession qu'ils n'occupent pas et qu'ils avait fini par rendre finalement à la veille de cette guerre des boxeurs.
Oui, parce qu'au fond, les États-Unis sont la plupart du temps fidèles à la politique de la porte ouverte, c'est-à-dire qu'ils favorisent un impérialisme informel en Chine, ils ne souhaitent pas coloniser la Chine et donc ils entendent décourager aussi les autres puissances de le faire. Et donc, au fond, ils n'ont jamais développé ce petit territoire au cœur des concessions étrangères, qui va devenir une espèce de no man's land, qui va accueillir à la fois les activités illicites, des brigands chinois, des seigneurs de la guerre en rupture de ban, qui veulent échapper, au fond, aux autres juridictions, c'est-à-dire à la fois à l'Empire Qing et puis aussi aux juridictions britanniques françaises.
Anaïs Kien.
Alors, peut-être qu'il est temps de voir un petit peu quelle a été... Dire programme, ce serait employer un mot qui ne serait pas tout à fait adapté, je crois. Ce gouvernement militaire international va, pour le coup, moderniser à une vitesse très tout à fait impressionnante ce territoire de Tianjin. Vous détaillez dans votre ouvrage à la fois le programme sanitaire, le programme d'aménagement urbain, le programme de remise en sécurité aussi de ce territoire. Alors, l'idée n'est pas seulement de remettre en ordre, on va bien au-delà, c'est-à-dire qu'on arrive à un degré de modernité inouï, lorsqu'on voit l'héritage de cette historiographie de la Chine qui nous décrivait une Chine bien souvent malade, incapable de s'adapter à la modernité de cette entrée dans le XXe siècle. Et on va voir apparaître des hommes, notamment de très hauts fonctionnaires ou des hommes politiques chinois, qui vont savoir justement se jouer et jouer avec les apports impériaux étrangers pour tenter et réussir en grande partie à faire entrer leur pays dans cette époque moderne, tout en continuant à bénéficier de ce dispositif des concessions qui limite finalement tout à fait efficacement l'influence de ces étrangers sur l'ensemble de l'Empire chinois.
Oui, c'est très juste. En fait, cette invention de Tianjin comme laboratoire de la modernité, avec des guillemets, modernité urbaine en Chine, au fond, s'inscrit dans la politique qui est menée à partir des années 1860-1870 par les vice-rois, les gouverneurs généraux de la province du Jiuli qui résident dans cette ville de Tianjin, et notamment le plus important d'entre eux, Li Rongjiang, qui est en fait l'homme d'État.
Le Bismarck de l'Orient.
Le Bismarck de l'Orient, exactement.
Comme ça qu'il était surnommé.
Surnommé par Galton, le photographe, de cette façon. Parce qu'au fond, Li Rongjiang est l'homme le plus influent de cette deuxième moitié du 19e siècle dans l'Empire chinois. C'est lui qui va faire office de ministre des Affaires étrangères, d'où le déplacement du ministère de la diplomatie dans cette ville de Tianjin. Et en fait, ce vice-roi va s'entourer de nombreux experts étrangers dans tous les domaines. Charles Tenet dans le domaine de la pédagogie, le docteur français de passé dans le domaine de la médecine, Charles Enby dans le domaine diplomatique, ainsi que l'allemand Gustave Détring qui va négocier pour lui les accords avec les Français au terme de la guerre franco-chinoise de 1884-1885.
Qui est aussi le propriétaire de ce fameux hôtel Astor, d'ailleurs.
Exactement, qui est le propriétaire de ce fameux hôtel Astor et qui possède à la fin du 19e siècle la quasi-totalité du foncier de la concession britannique. Est possédé par un citoyen d'origine allemande. Bon, donc vous voyez cette histoire qui est par définition transimpériale. Donc tout ça pour dire que Li Rongjiang, eh bien, va transformer cette ville en laboratoire de la modernité, en y instaurant la première université moderne de Chine en 1895.
Le premier club de foot, le premier club de basket, etc., etc.
Etc., etc. Dans le domaine de l'industrie, de l'armement, avec le premier sous-marin, nous avons parlé du téléphone tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au fond, Tianjin est, dès avant cette guerre des boxeurs en 1900, une véritable vitrine de la modernité en Chine.
Oui, on est exactement au même moment, il faut le rappeler pour nos auditeurs, que l'exposition universelle de 1900 qui rassemble justement toutes les prouesses technologiques de l'époque. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que dans ce gouvernement que décrivait Anaïs Quien tout à l'heure, il y a des personnages très intéressants. C'est-à-dire que vous y découvrez, alors que cette ville est très peu connue, vous y découvrez que le destin colonial de plein de personnes très importante, d'un grand nombre de personnes très importantes, depuis Gordon, Charles Gordon, qui va finir sa vie à Khartoum, et qui a été donc incarné au cinéma par Charlton Heston, mais jusqu'à Von Falkenhayn, qui finira, lui, comme celui qui est responsable de l'offensive de Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Tout un tas de personnages très importants. Hoover, vous l'avez dit, qui deviendra président des États-Unis, passe par cette petite concession de Tianjin, comme quoi elle a un rôle bien plus important, de peut-être de façon, une façon de propulser les carrières de ceux qui y passent. C'est assez étrange.
Oui, au fond, Tianjin, c'est un petit peu, si vous voulez, le une forme d'Eldorado, alors pas d'Eldorado, et puis en même temps de Far East, hein, ouais, au sens de Far West, où chaque étranger se promène avec son pistolet à la ceinture. Au fond, c'est une ville où, dans l'esprit des acteurs, tout est possible. Hein, cette représentation est très forte, hein, dans l'esprit des personnages de cette époque, de Hoover par exemple, qui considère en 1900, à la veille de ces événements, que Tianjin incarne au fond le futur de l'humanité, d'où le titre cosmopolite, c'est-à-dire une cité universelle où non seulement toutes les grandes puissances étrangères se retrouvent, mais également toute une série de diasporas, des juifs de l'Empire ottoman, ensuite les juifs, des juifs aussi russes, des russes blancs, on retrouve aussi des philippins, toutes les diasporas asiatiques possibles et imaginables, des coréens, des indiens.
Ce qu'on a tendance à dire aujourd'hui, par exemple, de Shanghai, par exemple.
Exactement. Exactement. Si vous voulez, Tianjin incarne un rêve au fond pour tous ces acteurs à la veille des événements des boxeurs.
Anaïs Quien.
Et puis c'est aussi un moment de réforme de l'idée coloniale, puisqu'on assiste malgré tout, on est tout à fait dans une situation d'exploitation, mais également de mise en valeur, de posture de colonisateur éthique. Et cela s'accompagne d'un mouvement qui préexiste depuis le milieu du XXe siècle, des critiques, notamment de fonctionnaires coloniaux. On a cet exemple-là à travers le roman Max Havelaar, qui avant d'être une marque de café, était une fiction critique à l'endroit de la manière dont on exploitait les indigènes des comptoirs néerlandais à Java. Et ce réformisme colonial que vont expérimenter finalement les puissances impériales à Tianjin va être un échec pour les empires coloniaux, en tout cas puisque ce sont les Japonais à l'arrivée qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu.
Oui, alors c'est une autre découverte, hein, à l'occasion de ce terrain sur Tianjin, c'est au fond le rôle déterminant des Japonais. Qui reconnu par, encore une fois, toutes les puissances étrangères dès 1900. Les Japonais, en fait, d'abord vont jouer un rôle déterminant sur le terrain militaire, puisqu'ils vont obtenir la décision tout seuls à l'occasion de cette bataille de Tianjin, où toutes les autres puissances se sont repliées. Le commandant en chef japonais décide d'envoyer ses troupes à l'assaut de la porte sud de la ville, et cette porte sud va être prise uniquement par ses soldats japonais. Ensuite, les Japonais sont les seuls à... les premiers à protéger les populations civiles contre les massacres et le carnage
et
qui
se déroule. Et à se tenir assez bien, dites-vous, par rapport à toutes les puissances étrangères qui, elles, massacrent à tout va.
Oui, précisément, ce sont les Nippons qui inventent un système en distribuant des drapeaux blancs, des drapeaux à l'effigie du Japon avec le disque solaire, pour que les populations civiles, les femmes et les enfants soient protégés. Et puis ce sont ces Japonais qui vont s'illustrer dans tous les domaines, le domaine sanitaire, dans le domaine de la santé publique. Les médecins japonais sont à la pointe, alors suivis de très près par les Français qui, eux aussi, selon le génie national français, souhaitent s'illustrer dans ce domaine. Les officiers japonais vont réalisé toute une série de cartes, de recensements, c'est-à-dire briller dans ce domaine des sciences camérales. Et ils vont s'intéresser aux arts chinois. Par exemple, pendant le pillage, eh bien, on observe des scènes totalement surréalistes d'officiers japonais qui glosent sur la datation de telle ou telle porcelaine, de tel ou tel rouleau ancien chinois, alors que les Russes massacreraient allègrement et les Français violeraient des femmes chinoises.
Et d'ailleurs, vous semblez dire que le Japon, finalement, se fait médiateur entre cette société chinoise qui accepte mal, logiquement, d'être dominée par les empires occidentaux et ces empires occidentaux qui tentent à la fois d'exploiter, mais aussi de s'inventer un futur colonial. Vous parlez d'exposition universelle permanente en parlant de Tianjin dans votre ouvrage. Et donc ces Japonais feraient finalement une synthèse qui rendrait une médiation possible entre ce peuple chinois très divers et ces empires coloniaux occidentaux.
Oui, parce que les Japonais, au fond, les Japonais facilitent cette appropriation de cette modernité dite occidentale, qui en réalité est une coproduction à la fois de la part de ces puissances étrangères et puis, vous l'avez dit, de ces notables chinois qui jouent un rôle très important. Les Japonais facilitent cette appropriation parce qu'au fond, du point de vue des Chinois, les Japonais, ce sont les cousins parfois lointains, là en l'occurrence qui se sont rapprochés d'eux, qui les comprennent parce que beaucoup parlent le chinois, parce qu'ils partagent en grande partie une culture commune. Et donc, ces Japonais vont s'appliquer à tisser des liens étroits avec notamment les élites urbaines de Tianjin, en organisant par exemple des spectacles de sumo, en effectuant des travaux de calligraphie, en buvant du thé, ensemble, régulièrement, plusieurs fois par semaine. Donc, ces Japonais, au fond, à partir de 1900, eh bien, illustre la mission civilisatrice par excellence vers laquelle se tournent les intellectuels chinois, vers laquelle se tournent à partir de 1900 massivement les étudiants chinois qui vont partir massivement à Tokyo pour poursuivre leurs études.
Oui, donc c'est une sorte de jeu de bonneto, pourrait-on dire, où ceux qui étaient censés être les plus nombreux, à savoir les Européens, qui auraient pu s'allier dans cette mission civilisatrice dans cette ville de Tianjin, vont perdre la mise, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que voilà les puissances européennes très nombreuses sur le terrain qui pourtant n'arrivent pas à imposer, pourrait-on dire, leur ordre.
Alors oui, deux choses. D'abord, c'est très juste, au fond, les puissances occidentales, au fond, se neutralisent mutuellement sur le terrain, les Britanniques, les Français, les Russes, les États-Unis, et cela profite naturellement aux Japonais. Et donc ces Japonais vont prendre la main, notamment eh bien, en devenant les premiers partenaires du nouvel homme fort de cet État chinois, celui qui succède d'une certaine façon à Li Rongjiang, qui est Yuan Shikai, qui devient au fond le nouveau gouverneur général de cette province et qui va devenir en 1912 le premier président de la République de Chine.
Merci Pierre Saint-Garavelou d'être venu nous présenter avec Anaïs Quin une ville-monde méconnue, celle de Tianjin. Votre livre s'appelle Tianjin Cosmopolis, une autre histoire de la mondialisation. Il paraît aux éditions du Seuil. Il faut attendre un tout petit peu avant de pouvoir se le procurer, mais vous pouvez le commander d'ores et déjà dans vos librairies. Merci. Et nous poursuivons demain notre série consacrée à l'histoire des mondialisations, Anaïs Quin, avec un documentaire que vous avez réalisé avec Véronique Samouilov, un documentaire un peu particulier.
Oui, l'idée, au départ, j'avais envie de rencontrer un Américain ou une Américaine qui avait choisi de vivre en France pour voir un peu quelle avait été son analyse des deux sociétés. Et puis, je suis tombée sur Sarah Petronio, qui a tout d'une américaine, l'accent, la danse, puisqu'elle fait de la tap dance, donc cette forme particulière de claquette jazz des hoofers afro-américains. Et Sarah Petronio et sa fille, Lila Petronio, ont un parcours bien plus mondial que ce que ne dit tout ce qu'on peut trouver sur elles, puisqu'elles ont un parcours qui passe par la Birmanie, l'Inde, évidemment les États-Unis et surtout la France depuis une cinquantaine d'années.
On écoute un extrait de ce documentaire que vous avez réalisé avec Véronique Samouilov.
Quand j'étais avec Jimmy, ce qu'il partageait avec moi, c'était une tranche d'Amérique profonde. Là.
Du coup, t'as toujours dit je suis américaine, mais c'est vrai que même moi, petit, je disais, finalement, t'as vécu 5 ans.
C'est à cause de ma danse. C'est à cause de la musique jazz, je sens américain. Parce qu'on faisait le jazz en Inde. Mon frère jouait le piano, je chantais dans son. I think c'est la danse qui m'a tamponné. American. Si j'avais fait classique, they'd say, oh, you're French. No. American. What, darling?
Vous, Lila, vous êtes la fille de Sarah Petronio. Vous vous sentez française, américaine ou encore autre chose?
Je me sens un peu citoyenne du monde. Un certain métissage a imprégné mon enfance, mais je ne me suis posé pas plus de questions que ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est en arrivant aux États-Unis, honnêtement, que j'ai commencé à gratter. Parce qu'en arrivant là-bas, à la fac, une des premières questions, c'était « Mais toi, t'es quoi ?» Et je disais « Bah, je suis française. » »« Mais non, t'es pas française, t'as pas une tête de française, t'es quoi ?» Je suis très brune. En plus, là-bas, c'est vraiment noir, blanc, asiatique, latino, autre. Enfin, voilà, je disais « Bah, je sais pas, autre. » Surtout que, bon... J'ai une tête qui passe pour la projection que les gens ont envie de faire. Je peux passer pour une Colombienne, une Mexicaine, une... ici on me prend souvent pour une Marocaine, enfin on me prend pour tout, sauf ce que je suis puisque c'est un gros, on ne peut pas deviner en fait. Ça m'a appris beaucoup aussi. Autant ma mère a dit « Ah moi je, voilà, le racisme, j'ai jamais rien senti », je dirais pas tout à fait ça. C'est pour ça que je disais « citoyenne du monde », c'est que moi ça me va, hein. C'est les autres en fait, c'est leur problème.
Sorry. C'est très commun, cette geste. Enlève le plat, enlève le tapis. Par exemple. Ta-pou-ti-ta-ti-ra-di-ta, pi-ra-di-ta-di-lou-da. Tu peux chanter ça? 1, 2, 3, 4. Pa-pa-di-pa-pi-ti-pi-pa, pi-ri-di-pi-di-lou-pa-pa. Sing with my feet the song, j'exprime avec mes pieds la chanson qui est dans mon cœur.
Voilà pour le documentaire Dance in Shoes, Sarah et Lila Petronio de Bombay à Malakoff via Brooklyn, que nous proposons à nos auditeurs demain. Et on poursuivra cette semaine consacrée à l'histoire des mondialisations avec vous, Anaïs Quien, en évoquant une autre histoire un peu particulière, celle de Cahors.
Voilà, Cahors Mundi, qui a tenté, à partir des années 40, de devenir le laboratoire de la mondialisation en tentant de devenir une ville mondiale, ce qui créera également plus tard un débat sur une citoyenneté mondiale à travers la figure de Gary Davis, qui avait demandé, en pleine guerre froide, à devenir citoyen du monde et à avoir les papiers officiels qui en attestaient.
Merci Anaïs, et à demain. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet, et sa réalisation était assurée par Véronique Samouilov. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter aussi longtemps que vous le souhaitez, la télécharger dans l'année qui suit sa diffusion, ainsi que les émissions de la semaine dernière enregistrées lors du forum France Culture, l'année vue par l'histoire. N'hésitez pas à le faire, et effectivement, vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.